ADN, Atelier du délire novateur, Radio Campus, www.campusville.com, 106,6. Fukushima, été 2011, avec des extraits de 3D sur France Inter, de contre-expertise sur France Culture et de différentes conférences de presse de la CRIRAD.
En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je n'ai pas été élu pour le remettre en cause. Il ne sera donc pas remis en cause. Je voudrais d'ailleurs dire à ceux qui proposent le moratoire comme avenir que c'est une position incompréhensible. On garde nos 58 centrales, on ne bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête. C'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Pendant 40 ans, 50 ans, nos prédécesseurs ont investi dans cette technologie. Et il faudrait que parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remette en cause ce qui fait la force de la France, ce qui fait la fierté de la France, ce qui fait l'indépendance de la France. Ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable.
D'abord, nous ne sommes pas après Fukushima.
Nous sommes toujours
dans. Nous sommes pendant Fukushima. Parce qu'on a trop de tendance à dire, on prend l'explosion comme étant l'accident, et puis après que l'explosion s'est produite, bon, mais l'accident est fini, et puis on regarde ce qu'il faut faire. En fait, depuis plus de 3 mois, l'accident continue. Et ça, c'est déjà quelque chose de très exceptionnel par rapport aux accidents dont on parle en général. Alors cet accident, en quoi il consiste ? Il consiste dans le fait qu'il y a eu effectivement un tsunami, un tremblement de terre et un tsunami, mais la conséquence directe qui aurait pu être apportée par d'autres causes, c'est le fait qu'on ne peut plus refroidir le réacteur. C'est-à-dire que le réacteur peut s'arrêter, mais que la radioactivité est telle qu'il y a encore de la chaleur, et donc il faut le refroidir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus d'alimentation en eau et surtout il n'y avait plus d'alimentation en électricité pour faire marcher les systèmes de secours. Et donc du fait de cette panne de la mécanique, il y a eu la fusion, la destruction du combustible puisque la température de l'eau a augmenté et que cette eau s'est vaporisée, donc les combustibles ont été mis à nu et donc le combustible s'est détérioré et il y a eu la formation d'hydrogène qui a explosé, d'où l'accident le premier, enfin l'accident, la pointe de l'accident. Mais après ça, on n'est pas arrivé à refroidir suffisamment, c'est-à-dire que les cœurs des réacteurs, c'est-à-dire l'ensemble des combustibles qui sont dans le réacteur, ont fondu. Et d'ailleurs,
pour le béotien que je suis, qu'est-ce que ça veut dire on fondu? Il se passe quoi? Est-ce que ça attaque, par exemple, le socle de...
Mais d'abord, ça fond au sens fondre du métal, quoi.
Ouais.
Là, c'est de l'oxyde, donc il faut des températures très élevées. Ça fond, c'est-à-dire que ça fond. Ça devient liquide.
Et ça passe
une certaine masse. Alors, ça va au fond de la cuve, puisqu'il y a une cuve du réacteur en acier, donc ça descend. Il y a de moins en moins d'eau. Alors, à ce moment-là, les Japonais, à juste titre, se sont aperçus que les systèmes d'eau ne fonctionnaient plus, puisqu'il n'y avait plus d'eau qui pouvait circuler. Donc, ils ont fait circuler de l'eau de mer, puisque c'était la seule ressource disponible. Et donc, cette eau a permis de refroidir au maximum, de façon à ce que cette fusion du cœur ne se transforme pas en une explosion nucléaire.
Mais l'acier qui est au fond,
alors l'acier,
monsieur Lapouchi, tient le coup ou ça passe à travers l'acier aussi?
Alors, ça dépend des fois. Et donc,
c'est franchement des bonnes nouvelles, oui.
Non, mais dans ce cas-là, effectivement, il semble que la cuve n'ont pas été percée avec un énorme trou, mais qu'il y ait eu des fissures, et que par conséquent, il peut y avoir une partie de ce cœur en fusion qui passe, mais dans la mesure où il refroidit, ça fait une masse solide. Donc cette masse solide, on espère qu'elle soit bien confinée au fond de la cuve.
Il n'y a pas un risque que ça parte dans l'eau et que ça aille en mer et que ça se diffuse?
Il y a un risque que ça que ça perce la cuve, ce qui est peut-être en partie le cas. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, que tout ça se produit dans des atmosphères tellement radioactives qu'on ne sait pas. Je veux dire, même les Japonais qui sont à côté ne savent pas exactement ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, on le sait parce que il y a des matières radioactives qui sont projetées à l'extérieur, soit par l'explosion d'hydrogène, soit du fait que l'eau qu'on envoie, c'est pas un circuit fermé, c'est-à-dire vous envoyez de l'eau, puis cette eau,
elle repart,
et il faut la, si possible, la stocker dans d'énormes containers, puis au bout d'un moment, il y en a trop, et finalement, on envoie dans la mer. Alors. Et c'est en fonction des produits radioactifs qui sont soit envoyés dans l'air, soit dans l'eau, qu'on analyse ce qui se passe à l'intérieur. Hein, on peut pas savoir. Et par exemple, on a découvert il y a quelques jours qu'il y avait des traces infimes de plutonium. Or le plutonium,
c'est le pire de tous. Hein, le plutonium.
C'est le pire de tous. Et normalement, il devrait rester à l'intérieur de ce cœur fondu, ou bien à l'intérieur des piscines de combustible irradié qui sont à côté. Alors, s'il y a des traces, ça veut dire qu'il y en a pas trop, mais ça veut dire que quand même, à un moment donné, il y a quelque chose qui a été percé ou qui a des fissures. Alors, si on continue, c'est-à-dire que ce refroidissement actuel. Alors maintenant, ils ont pu rétablir un refroidissement avec de l'eau ordinaire, pas de l'eau de mer, mais c'est toujours en circuit ouvert. C'est-à-dire que l'eau que j'envoie se charge de matière radioactive
et repart.
Et repart dans ces fameux bassins.
Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser.
On doit la filtrer. Donc ils ont commencé à la filtrer pour enlever les matières radioactives. Et ils ont filtré pendant 8 heures et puis ça s'est bouché et donc ils ont arrêté hier matin la filtration. Et donc il y a des quantités de matières radioactives emmenées par cette eau qui doivent aller dans la mer.
Est un pays qui a toujours été totalement dépendant de l'extérieur pour son énergie. Importation de pétrole, de gaz naturel, de charbon, et donc ils ont essayé de se doter d'une certaine indépendance en se lançant dans le nucléaire. Mais on pensait quand même que les Japonais, qui avaient été quand même traumatisés par l'explosion de Hiroshima, feraient du nucléaire dans des conditions extrêmement sûres. Or là, tout ce qu'on vit, et on n'a pas fini effectivement, on est encore dedans dans l'accident de Fukushima, et pour longtemps, on n'a pas encore imaginé tout le coût que va représenter cet accident, et on aurait imaginé que les Japonais soient beaucoup plus prudents en termes de décision, en termes de protection, en termes de sécurité, et là, tous les jours, on voit qu'ils ne l'ont pas été. Et ça, c'est quand même assez effrayant. On ne s'attendait pas à un accident de cette ampleur dans l'un des pays réputés comme étant un des plus sûrs du monde.
« la contestation au Japon ne s'exprime pas dans les mêmes formes que les nôtres, et donc comme on ne les voyait pas avec de grandes pancartes manifestées dans les rues, on disait finalement toute la population japonaise accepte le nucléaire. Or, dans les premières lettres que j'ai reçues tout de suite après l'accident, quand on pensait encore que c'était un petit accident, tout le monde disait, ben là le mouvement va renaître, ce mouvement anti-nucléaire qui est finalement très fort, mais qui a d'autres formes. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est difficile d'accuser, enfin, de dire que c'est un cas particulier, le Japon, et que, enfin, sous-entendu, en France ou en Allemagne, ça ne se passerait pas de la même manière. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a des organisations internationales qui sont chargées du contrôle des procédures, qui sont chargées, comme l'AIEA, et que là, elles ont perdu toute crédibilité, toute virginité scientifique. C'est-à-dire qu'on trouve la même situation, les mêmes experts qui sont incapables de se faire entendre. Je n'accuse pas les scientifiques, mais la manière dont cet AIEA a fonctionné pendant tout ce temps-là est quand même assez terrible.
Promouvoir l'énergie nucléaire et sur toute une série de dossiers, que ce soit l'impact des retombées des essais français à Mururoa, que ce soit l'impact des essais français, je parle des essais atomiques, en Algérie, que ce soit sur l'impact des mines d'uranium françaises au Gabon. Lorsqu'on constate la réalité du terrain, on s'aperçoit que ce que dit l'AIEA en termes de risque radiologique ne correspond absolument pas à la réalité. Donc là, il faut que les citoyens, effectivement, soient exigeants pour avoir des structures qui défendent leurs intérêts, mais pas des structures comme l'AIEA. Je crois qu'il est important, mais je pense que maintenant tout le monde en a la conviction, que le risque zéro n'existe pas et que par rapport à l'énergie nucléaire, les citoyens doivent en avoir bien conscience. En France, on n'aura probablement pas un tsunami, mais on peut avoir une succession d'événements, séismes, qui conduit à la rupture d'un barrage, qui conduit finalement sur un site nucléaire, par exemple de la vallée du Rhône, à une perte de fonction de sûreté aboutissant à des rejets très importants. Donc l'accident nucléaire est possible partout dans le monde, ça il faut en avoir conscience. Sur l'aspect économique, je crois que personne ne peut sérieusement donner le coût du nucléaire. Il y a des coûts qui ne sont pas correctement évalués, le coût de gestion des déchets radioactifs, et ça commence dès la mine d'uranium. Il faut rappeler qu'en France, on a quand même 50 millions de tonnes de boues radioactives, les résidus de nos mines d'uranium, dont on ne sait que faire. Que les solutions d'entreposage à long terme des combustibles hautement radioactifs ne sont pas aujourd'hui au point et personne ne peut vraiment en prédire le coût. Et enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qu'en cas d'accident nucléaire, comme c'est le cas à Fukushima, il y a toute la question des indemnisations. Wataru Iwata de l'ONG japonaise qu'on a accueillie la semaine dernière à Valence nous disait qu'à sa connaissance, à peu près 160 000 personnes de la préfecture de Fukushima se sont auto-évacuées, c'est-à-dire qu'elles ont décidé de partir parce qu'elles vivent sur des territoires contaminés, mais à des taux de contamination inférieurs aux nouvelles normes que ont mis en place les autorités japonaises et qui sont 20 fois supérieures à la norme d'habitude considérée comme acceptable. Eh bien, ces gens, au point de vue économique, qui va les indemniser ? Personne. Donc tous ces coûts, coûts de gestion de l'accident nucléaire, coûts de gestion des déchets, à ma connaissance, ne sont pas correctement comptabilisés dans l'appréciation de la rentabilité du nucléaire.
Mais si on découvre que le nucléaire est très cher, ça, ou qu'il est bon marché, pour moi, le nucléaire, avec ses trois catastrophes, l'une derrière l'autre, il s'est mis, d'une certaine manière, hors de l'économie. Je trouve évidemment qu'on peut discuter du coût et de dire qu'il manque une partie à l'intérieur de ce coût, qu'il faut mettre le... je sais que la centrale de Brennelis, qui est en démantèlement actuellement, elle a déjà coûté 20 fois plus le démantèlement que ce qui avait été prévu. Il y en a pour 480 millions. Donc, c'est vrai, ça augmente. Mais la vraie question, elle n'est pas là, c'est même si c'était bon marché, est-ce qu'on peut mettre en jeu des populations entières de manière si cynique? Et ça, je trouve que le président de la République, là, il fait... c'est gros, c'est énorme. Il répète ce qui a été dit après Tchernobyl, on va faire tout notre possible pour que ça ne se reproduise pas. Or, maintenant, on en est à troisième grande catastrophe. Donc, quand il y a eu trois catastrophes, on peut faire de la statistique. Les assurances refusent de payer ce genre de choses. Ça veut dire que eux-mêmes ont compris, les assurances, qu'ils ne peuvent pas assurer ça. Et donc, ils se mettent hors de l'économie. Ils disent, il faut que d'autres payent. Et là, je pense qu'il n'y a qu'une seule position, enfin la mienne, dans ce cas-là simple, c'est qu'il faut sortir du nucléaire parce qu'en gros, ça représente qu'une immense menace par rapport à un bénéfice qui est très petit, c'est 2,8% de l'énergie mondiale actuellement selon l'ONU.
Radio Campus 106,6. www.campusmille.com sur Internet.
Non, Paris, Moscou, Berlin. Non, Paris, Moscou.
rien qui peut être comparé à ce qu'est Fukushima aujourd'hui. Parce que quand même, à part la radioactivité, on sait quand même un peu plus de ce qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est pas inutile de le dire, parce qu'il y a tellement d'informations maintenant, on dit oui, mais on sait pas. On sait en tout cas une chose, c'est que entre le moment où il y a eu le tremblement de terre et le moment où il y a eu le tsunami, c'est-à-dire qu'il s'écoule un certain temps, il y a eu un dégagement de radioactivité. Ce qui veut dire que l'accident, qui était au début qu'un incident, puis un accident, puis une catastrophe, fait, a commencé au moment du tremblement de terre et non pas par l'action commune de ces deux facteurs que serait le tsunami et le tremblement de terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait, contrairement à ce qui avait été dit, qu'il y a trois cœurs, et les trois cœurs qui étaient potentiellement en activité, puisque le quatrième était arrêté et le 5 et 6 étaient hors, les barres de contention étaient baissées, il y a donc les trois cœurs qui ont fusionné. Et maintenant, ce qu'on vient d'apprendre, et ça je crois que c'est le plus terrible, on apprend que le confinement inférieur du réacteur numéro 1 serait percé, ce qui veut dire que c'est plus seulement ce qu'on appelait un meltdown, c'est-à-dire une fusion du cœur, mais c'est un melt-through, et ça s'est jamais passé nulle part, ni à Tchernobyl, ni à Three Mile Island, et ça veut dire une contamination hautement radioactive qui part dans la nappe phréatique. Et si ceci se vérifie, et qu'il y a plusieurs scientifiques qui semblent être de cet avis-là, y compris à Polytechnique en France, ça voudrait dire qu'on est devant un accident, qu'on n'est pas au bout de la chose. C'est pas seulement qu'il y a une contamination, c'est qu'il y va avoir une nouvelle contamination.
Bruno Charéron, c'est aussi votre avis de scientifique ?
Moi, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de bien comprendre que l'accident de Fukushima, on est toujours dedans. Il n'est pas terminé, il continue. Personne ne peut exactement et précisément prévoir ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et c'est ça qui est encore plus stressant lorsqu'on est sur place. C'est qu'en fait, on ne sait jamais si des masses d'air contaminées sont en train d'arriver sur vous. Et ce qui est dramatique, c'est que les systèmes de surveillance de la radioactivité de l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas performants. Dans la ville de Fukushima, 300 000 habitants, il y a un capteur pour mesurer la radioactivité. Et les autorités préfectorales nous ont dit qu'ils ne s'en servaient plus parce qu'il est contaminé. Ça veut dire que quand vous êtes sur place, outre le stress de la radiation immédiate que vous mesurez sous vos pieds avec votre compteur GGR, il y a le stress de savoir et qu'est-ce qui va se passer demain au niveau de la centrale nucléaire. Vous avez évoqué la pollution des nappes phréatiques, mais il y a aussi toujours cette situation de rejet radioactif dans l'atmosphère. Juste pour illustrer le peu d'informations dont on dispose, j'ai interpellé TEPCO à leur conférence de presse il y a quelques semaines en leur demandant comment ils mesuraient la radioactivité dans l'air extérieur devant la centrale.
TEPCO qui gère la centrale.
Ils ont une seule balise qui peut le faire et cette balise ne fonctionne que 20 minutes par jour, c'est-à-dire que le reste du temps, s'il y a une contamination de l'air, et les rejets d'ailleurs continuent à Fukushima, on n'a pas de données précises.
Et vous avez reçu des ONG très récemment, des ONG japonaises qui sont venues vous en parler à Valence.
Oui, depuis le début, on est en contact avec des citoyens japonais qui ont créé une ONG, en particulier avec M. Wataru Iwata, qui avec d'autres habitants de Fukushima, vient de créer une structure qui a déjà commencé à implanter des laboratoires de mesure indépendants. Cette structure s'appelle le CRMS, Citizens Radiation Monitoring Station, c'est-à-dire des stations de mesure de la radioactivité gérées par et pour les citoyens.
Alors qu'est-ce qu'elles vous disent ces ONG aujourd'hui ?
Ces ONG nous disent d'abord qu'elles sont en situation de guerre. Nous, on est tranquillement ici en France dans nos bureaux, on n'est pas soumis à cette contamination, à cette pression, à ces choix qui sont terribles à faire pour les populations, c'est-à-dire que je l'ai vécu avec mon collègue Christian Courbon quand on était sur place. Lorsque vous êtes sur une parcelle contaminée, dans le jardin de quelqu'un qui est contaminé, dans sa ferme qui est contaminée, que vous lui montrez cette réalité et qu'il vous demande quels sont les risques pour la santé, ce qu'il doit faire, et que vous lui expliquez que vu les taux de radiation, Par exemple, dans la ville de Fukushima, vous avez 10 fois, 20 fois la radioactivité normale un peu partout. Quand vous expliquez à ces gens que face à ces risques sanitaires à long terme, eh bien, il vaut mieux en fait s'en aller. C'est une situation qui est très difficile et vous imaginez que les ONG sur place sont soumises à cette angoisse, à ce combat, c'est-à-dire éduquer, expliquer aux citoyens la réalité de la radioactivité qu'ils ont subie et qu'ils continuent à subir, pour les aider à prendre les bonnes décisions pour leur santé et celle de leurs enfants.
Les nuages bombardent les hallucinogènes. Les enfants des usines mendillaient des sourires. Les fantômes pèsent lourd et tout est limité. Tu ne crois pas aux machines, c'est l'ombre de Zeppelin. D'ici on voit la mer qui n'est pas barbelée, sur laquelle bientôt flotteront nos cités. Les nuages bombardent les hallucinogènes. Les enfants nucléaires sont sortis de leur cage. En léchant les trottoirs, ils ont vu des archanges, des fleurs dans les égouts, du soleil sur l'asphalte. D'ici on voit le ciel qui n'est pas barbelé et dans lequel bientôt flotteront nos cités. Les nuages bombardent des hallucinogènes. Des enfants martiens descendaient dans nos rues, égorgés des lampadaires qui avaient l'air heureux. Et puis défier le vent dont le chant est interdit. D'ici on ne voit rien, mais tu crèveras le ciel pour pouvoir y passer sans te cogner les ailes. Sans te cogner les ailes.
Près de 4 mois après le tremblement de terre et le tsunami dans l'archipel du Japon, la situation de la centrale nucléaire de Fukushima n'est toujours pas réglée. Des associations de résidents de la ville ont annoncé des taux de radioactivité 4 fois supérieurs à la limite légale. Ils demandent que soient évacuées les femmes enceintes et les enfants. Les précisions d'Arnaud Jouve.
Fukushima est une ville de 300 000 habitants qui se trouve à 60 km de la centrale nucléaire du même nom, où 4 réacteurs en perdition ont provoqué déjà de nombreux relargages dans l'air, dans la mer et sur terre, de nombreux produits radioactifs très dangereux pour la santé. De plus, l'information sur la pollution et l'évolution de la situation est considérée par beaucoup comme très en dessous de la réalité. Et un groupement d'associations de la ville de Fukushima, très préoccupé par la pollution radioactive, dont les traces sont visibles à plusieurs centaines de kilomètres, a fait elle-même ses propres mesures et a trouvé en ville un taux de césium radioactif de 46 540 becquerels par kilogramme, alors que le taux de tolérance au Japon est fixé à 10 000 becquerels, soit un seuil supérieur à celui qui avait amené les autorités soviétiques à faire évacuer les populations autour de la centrale de Tchernobyl en 1986. Alors que 160 000 personnes ont déjà été évacuées et qu'un rayon de 20 km autour de la centrale est dorénavant zone interdite, les associations de la ville de Fukushima demandent l'évacuation des femmes et des enfants.
À noter qu'un séisme de 5,4 degrés a secoué la ville de Wakayama dans l'ouest du Japon. Des secousses ressenties jusqu'à Osaka. Osaka, mais qui n'ont fait ni victimes ni dégâts.
Radio Campus 106,6. www.campuslille.com sur Internet.
Japonais ont été très mal informés et très mal protégés par rapport à la question de l'évacuation dans les premiers jours et les premières semaines après la catastrophe. Le deuxième problème, c'est le confinement. Il a été demandé aux gens vivant dans la zone des 20 à 30 km, c'est-à-dire cette partie du cercle, de rester, si possible, confinés chez elles pour respirer moins de particules radioactives et pour recevoir moins de radiation par ces masses d'air qui circulent dans l'air. Mais ça, c'est utile quand les gens sont concernés par des masses d'air contaminées pendant quelques heures, pendant un jour. Mais si ça dure pendant des jours et des semaines, à ce moment-là, rester confiné chez soi, ça ne réduit pas beaucoup les risques, parce qu'au bout d'un moment, heureusement, enfin malheureusement, l'air extérieur et l'air intérieur sont le même air. Sinon, vous mourrez étouffé, vous n'avez plus d'oxygène. Donc confiner les gens, c'est bien dans certaines conditions, mais dans le cas d'une catastrophe de cette ampleur, ça n'avait pas beaucoup de sens et il aurait fallu donc évacuer les gens rapidement, beaucoup plus, sur des territoires beaucoup plus vastes que le cercle de 20 km. Le troisième problème de très mauvaise gestion, ce sont les pastilles d'iode. Donc parmi les substances qui ont été rejetées par cette catastrophe, il y a plus d'une centaine de substances radioactives différentes, le krypton, le xénon, du strontium, du césium, du plutonium, de l'iode radioactif. Et cet iode radioactif, vous le savez, se fixe sur la glande thyroïde. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y a autour de Tchernobyl, en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, une épidémie bien connue de cancer de la thyroïde chez les jeunes enfants, parce que cet iode radioactif a irradié leur glande thyroïde. Pour limiter la survenue de ces cancers, il faut donner très rapidement des pastilles d'iode non radioactif pour que la glande thyroïde soit saturée d'iode non radioactif et ne se gorge pas d'iode radioactif par le nuage qui passe, puis par les aliments que le nuage va contaminer. Or ça n'a pas été fait, ou de manière épisodique. Quand on était au Japon, on en a discuté avec beaucoup de gens, tous les gens qu'on a rencontrés, on leur a demandé « Avez-vous des pastilles d'iode ?» Et tous ceux que nous avons rencontrés, vivant y compris dans les zones proches de la centrale, n'ont pas reçu de pastilles d'iode. Pire que ça, on nous a expliqué que certaines municipalités ont pris la décision spontanée de distribuer des pastilles d'iode à leur population. C'est le cas d'une localité qui s'appelle Miyalu. Et le maire s'est fait taper dessus par les autorités préfectorales parce que ce n'était pas à lui de prendre cette décision. Donc c'est le troisième problème fondamental de très mauvaise protection de la santé des populations. Le quatrième problème, c'est l'alimentation. Tout le monde peut comprendre qu'à partir du moment où vous avez des becquerels dans l'air, très rapidement, ils vont retomber sur la terre, dans l'herbe, sur les épinards, dans les salades, on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous allez en plus ingérer des becquerels qui vont vous contaminer et vous irradier de l'intérieur par ingestion. Donc là aussi, il fallait, dès le début, dès le 12 mars, dès la connaissance du taux de radiation autour de la centrale et donc des rejets, il aurait fallu dire aux gens, vous ne mangez plus d'épinards, de salades, vous ne buvez pas de lait frais dans un vaste territoire en fonction de la direction des vents. Ça n'a pas été fait. Les autorités japonaises ont attendu le 18 mars pour faire les premières mesures d'aliments. Et évidemment, les premières mesures ont montré des contaminations très importantes. Je me souviens, les premiers chiffres, on les a vus le week-end du 20 mars, on était à la CNIRAD. Dans la préfecture d'Ibaraki, qui est à plus de 100 km, qui est à 100 km au sud, c'est-à-dire elle est au-delà du cercle de 80 km, ici, elle est même plus bas, il y avait des épinards contaminés à 50 000 becquerels par kilo en iode, c'est-à-dire que si un enfant en mangeait 200 grammes, il dépassait la dose maximale annuelle admissible. Et d'autres mesures qui sont arrivées plus tard ont montré que des herbes qui ont été prélevées par les autorités à Itaté, c'est cette zone-là, 40 km, avaient un taux de contamination en iode de 2,5 millions de becquerels par kilo. Ça veut dire que si les denrées comestibles autour avaient ce taux de contamination, ce qui est très probable, en mangeant 5 grammes, un enfant dépassait la dose maximale annuelle à la thyroïde. Toutes ces données, pour faire court, montrent qu'on a laissé subir des doses extrêmement élevées, des centaines de millisieverts à la thyroïde et probablement des sieverts, alors là on est dans les fortes doses, à la population, parce qu'elle a été très mal informée et très mal protégée. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable 25 ans après Tchernobyl, et en plus dans un pays moderne, riche, qui a des compétences, qui a des ingénieurs compétents en matière de radioactivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et la CRIRAD fera tout ce qu'elle peut dans les jours qui viennent, les semaines, les mois, pour le faire savoir et veiller, enfin, contribuer à ce que ce type de choses soit corrigé, parce qu'un jour, ça arrivera peut-être d'ailleurs chez nous. Donc il faut que l'ensemble des processus d'évacuation, de contrôle, soit revu. C'est quelque chose qui est extrêmement important.
Nous, les gardes de Pripyat, marchons tous la tête basse sous le vent de nos palaches. Une poussière flambée de honte, arpentant sans sourciller des avenues vidées de vie. Sur le sol où brûle la neige, en particules à ses traîtresses. Les yeux gonflés, allez froidement vers l'avant, redoutant qu'un geste là.
Nous sommes, comme je l'ai dit, le 15 juin 2011, trois mois après l'explosion à Fukushima et trois mois après les meltdowns des réacteurs numéro 1, 2, 3. La crise n'est absolument pas contrôlée ici au Japon. Je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui. Un fermier s'est suicidé samedi. Un fermier s'est pendu dans son étable. Il a écrit des mots avec une craie blanche sur les murs. Il a écrit des mots comme « J'aurais préféré qu'il n'y ait pas un power plant dans cette région ». D'autres phrases étaient adressées à d'autres fermiers. Il leur disait « Gardez le courage en face du nucléaire, ne tombez pas comme moi ». Un autre message où il disait « Enfin, que des messages comme ça, voilà ». Un pauvre fermier s'est pendu dans son étable, samedi 13 juin 2011. Dites-moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle. Ce pauvre mec, depuis trois mois, il a dû balancer son lait qui était radioactif, il a dû le balancer, là, dans la terre radioactive elle aussi. Ensuite, on lui a demandé de tuer ses vaches, il a dû tuer ses 30 vaches, qui étaient improductives. Et finalement, il vient de se pendre, là, ce week-end. Au Japon, à Fukushima, le gouvernement va distribuer 35 000 dosimètres pour les enfants de Fukushima. Parce que les parents là-bas, ils vivent avec une moyenne de 2,6 microsieverts par heure. On va distribuer 35 000 dosimètres aux enfants. Vous savez ce que c'est un dosimètre? C'est une petite machine comme ça, comme un thermomètre. Vous l'accrochez sur vous. C'est les machines qu'ont les travailleurs dans les power plants. Ce dosimètre, il n'a qu'une seule fonction. C'est de vous indiquer combien de radioactivité rentre dans votre corps, chaque heure, chaque minute. C'est ça un dosimètre. Ça protège absolument pas. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Japon. On va distribuer 35 000 dosimètres à 35 000 gamins qui habitent à Fukushima. Ils vont aller à l'école avec un dosimètre sur eux. Pour que leurs parents, le soir, puissent contrôler combien de radioactivité rentrait dans le corps de leurs enfants. Voilà la situation aujourd'hui. Le Japon va être le premier pays dans le monde à envoyer 35 000 gosses à l'école avec un dosimètre pour calculer combien de radiation ils se bouffent dans le corps chaque jour. L'excuse des gouvernements nucléaires, elle est là, dans ce petit carré. C'est ça l'excuse, pourquoi vous avez besoin du nucléaire en France, au Japon, en Amérique, en Italie, en Angleterre, dans tous ces pays. Ces pays sont des mafias du nucléaire. Voilà l'excuse qu'on vous donne. Elle est écrite là, en mots. On peut pas se tromper, c'est écrit. Si on arrête le nucléaire au Japon, les factures d'électricité vont augmenter. Oh, la belle affaire! Les gens vont devoir payer plus cher, hein. Les gens sont à côté de leurs sous, là, ils veulent pas payer plus. L'augmentation de la facture d'électricité sera de 1000 yens par mois au Japon si on arrête le nucléaire. 1000 yens par mois, c'est 9 euros. 9 euros sur votre facture d'électricité chaque mois. C'est ça le prix de l'énergie naturelle. 9 euros de plus. Eh bien, je vais vous dire un truc. En tant que parent, les 10 euros d'électricité par mois, je vais les payer. On va les payer ces 10 euros parce que c'est que dalle 10 euros. On va payer 10 euros et eux, ils vont nous enlever tous les power plants dans le monde sans condition. Vous voulez envoyer vos gosses à l'école avec un dosimètre sur leur chemise et puis contrôler tous les soirs le dosimètre combien mon fils il a bouffé de plutonium aujourd'hui? Non, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. C'est ce qui se passe ici. Voilà la situation du Japon aujourd'hui. C'est là, en première page du Japan Times. En France, on vous dit que la situation va bientôt être maîtrisée, c'est des mensonges. En deuxième page du même journal, ici, c'est écrit « TEPCO commence à nettoyer l'eau radioactive ». Super ! Mais ce qui est écrit dans cet article, c'est que on a relâché Dans l'océan, 720 000 milliards de becquerels depuis le début de cette affaire. Dans l'océan, on a relâché 720 000 milliards de becquerels. Et dans l'atmosphère, on a relâché 770 000 milliards de becquerels. Vous avez dû entendre que ce qu'on a relâché dans l'atmosphère, c'est égal à 15% en comparaison avec le relâche de Tchernobyl. Ce qui veut dire que ce qu'on a relâché dans l'océan jusqu'à présent, c'est aussi égal à 15% comparé à Tchernobyl. Ce qui nous fait qu'on a déjà relâché 30% comparé à Tchernobyl ici au Japon. Et on nous dit, et on vous dit, que ça ne va pas affecter la santé. En fait, ce qu'on relâche ici, ça va créer des leucémies, des cancers des os, des cancers du cerveau. Premièrement, à la population locale. Et deuxièmement, c'est dans l'océan. Ça va affecter la vie animale dans l'océan. Ça a déjà contaminé le seabed.
Radio Campus 106,6. www.campusmille.com sur Internet.
Information totale du gouvernement. Les gouvernements ne leur donnent pas l'information pour leur expliquer le problème de la contamination interne. Et alors, ce qui est scandaleux, mais scandaleux, personne n'a eu la distribution des plaquettes de l'alimentation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une explosion de cancer de la thyroïde chez les femmes. Ils ont sacrifié, mais c'est terrible. Alors, moi je vous dis ça parce que juste avant, j'ai oublié, j'ai fait une réunion. Enfin, j'étais invitée à cette réunion où il y avait toutes les associations, les ONG, les députés, des députés, des sénateurs, et il y avait les autorités donc, japonaises de sécurité, la commission de sécurité nucléaire et le bureau du Premier ministre. Et donc là, il y avait un dialogue entre tout le monde. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez distribué des plaquettes de jour de protection? Ils m'ont dit non, c'était trop compliqué. Et on a maintenant donné au maire des plaquettes en K2. Mais j'ai dit, mais en K2, mais tout ça, ça a été contaminé dans les premières semaines. C'est trop tard. Il fallait les donner avant. Vous savez, il faut le donner
mais
quelques heures
plus
avant.
Les faits, maintenant,
non, si 3 mois après, c'est fini. Donc ça veut dire que ça, si vous laissez, moi j'ai dit, mais c'est quoi? C'est de l'incompétence? Ils m'ont dit, oui, mais c'était compliqué à distribuer les doses. Mais je dis, c'est pas compliqué du tout. Mais ils ne s'étaient pas préparés. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas du tout préparés à un accident nucléaire. Et donc, ils n'avaient pas distribué les plaquettes au niveau des mairies et au niveau des habitants. Et donc, ils ne l'ont pas distribué.
Produits se diffusent partout. Mais il y a des gens, qui vivent, des hommes, des femmes, des enfants. Alors, il y a une zone d'exclusion de 20 km. Mais au-delà de cette zone d'exclusion de 20 km, il y a actuellement, pour ce que j'ai pu lire ici et là, au moins 70 000 personnes qu'il serait bon d'évacuer au plus vite. Est-ce que ces personnes-là risquent d'avoir été contaminées?
Oui. La réponse est oui, et même la contamination est allée beaucoup plus loin. Alors, à partir d'un certain moment, si vous voulez, c'est le drame de ce type de catastrophe, indépendamment du caractère spectaculaire de l'accident, c'est le fait que ce risque s'étend dans l'espace, tout l'hémisphère nord, avec évidemment des quantités décroissantes, mais ça va en particulier jusqu'en Californie, puisque le vent, heureusement, soufflait du côté du Pacifique. Donc, diffusion dans l'espace et diffusion permanente, c'est-à-dire l'iode, par exemple, qui est un gaz radioactif, disparaît assez rapidement, donc c'est les premiers jours qui sont importants, mais le césium, qui doit avoir une
durée de vie,
plusieurs dizaines d'années, je crois presque 100 ans, ça veut dire que lui, chaque fois qu'il se dépose quelque part, et en particulier sur les plantes, etc., les jardins qui sont autour, il y a une contamination au césium.
Et les poissons, les Japonais sont les plus gros consommateurs de poissons au monde.
Les poissons, c'est pareil. Donc.
C'est 80% de leur alimentation. Est-ce que c'est 80% de leur alimentation aujourd'hui qui risque d'être contaminée?
Alors, il y a le risque, c'est-à-dire ça s'étend. Là aussi, c'est dilué dans l'eau de mer, mais ça veut dire que ça s'étend. Et comme cette quantité augmente du fait de l'eau qu'on continue à déverser, ce que je disais tout à l'heure, la quantité déversée dans la mer, est-ce qu'elle devient du fait des courants, du fait du déplacement de certaines espèces marines, etc., on ne sait pas. On peut absolument pas faire aujourd'hui un bilan de Fukushima.
Important ça, parce que Monsieur Laponche, qui est en train de nous parler, c'est un physicien nucléaire. C'est un monsieur qui est un expert en politique de l'énergie, qui a travaillé avec le commissariat à l'énergie atomique. Et Monsieur Laponche est en train de nous dire que 3 mois et demi après la catastrophe de Fukushima, on ne sait pas exactement ce qu'il en est.
La centrale aujourd'hui n'est pas sécurisée, vous le savez. TEPCO nous dit peut-être qu'elle sera mise en sécurité au niveau du refroidissement l'année prochaine. Donc elle n'est pas sécurisée. Ça veut dire que des rejets massifs dans l'atmosphère pourraient de nouveau se produire. Donc on a rencontré TEPCO à la conférence de presse à Fukushima et je leur ai demandé comment ils surveillaient la radioactivité de l'air devant la centrale. Ils nous ont dit qu'ils avaient une balise devant la centrale au portail ouest, qui mesure la radioactivité de l'air 20 minutes seulement par jour. Et je leur ai dit, mais comment se fait-il que l'APIRAL, une petite association française, elle a 5 balises dans la vallée du Rhum, qui tournent en permanence jour et nuit, et vous, TEPCO, un des plus gros industriels nucléaires du Japon, vous n'en avez pas? Ils m'ont répondu, mais monsieur, c'est pas une question d'argent, c'est qu'on n'a pas le personnel pour changer les filtres et faire les analyses. Donc vous imaginez, c'est un site nucléaire où il y a 3 réacteurs où le cœur a fondu, ils n'ont pas les moyens d'avoir le personnel pour changer les filtres d'une balise. Mais on rêve complètement, que c'est un véritable cauchemar ce qui se passe là-bas. Et deuxième problème, les autorités. On leur a demandé s'ils avaient lancé un plan de distribution de pastilles d'iode dans les maisons pour ne pas reproduire l'erreur du début. Parce que les pastilles d'iode, je vous le disais, il faut les prendre si possible pour que ce soit vraiment efficace 3 heures avant les rejets, avant que l'air contaminé arrive. Donc il vaut mieux les avoir à la maison. D'ailleurs, on a le même problème en France. Quand on leur a posé la question, donc c'était le 30 mai, le responsable des affaires d'urgence à la préfecture de Fukushima nous a dit, mais non, ce n'est pas fait, ça doit venir du gouvernement japonais. Donc ça veut dire que tout est à revoir, quoi. La gestion de la crise pendant que la crise arrive, la post-évacuation, la gestion de la crise maintenant pour les gens qui vivent sur les territoires contaminés, et aussi la préparation à de futurs rejets massifs. Donc tout ça, vraiment, on croit faire un cauchemar, en fait, tellement c'est incroyable tout ce qui se passe là-bas.
Si une centrale nucléaire explose chez vous, c'est exactement la même chose qui va se passer. Vos gosses vont avoir des dosimètres, mais ça ne les protégera pas. Et les fermiers, les producteurs de vin qui vivent là, en Bourgogne, à Bordeaux, priez. Priez que ça n'arrive pas dans votre région. Parce que si Fukushima arrive à côté de Bordeaux, il n'y a plus de vignobles. Je viens de vous raconter l'histoire au début de cette vidéo d'un petit fermier japonais. Un fermier de 65 ans qui s'est pendu samedi parce que sa terre est foutue. Les vignobles, en Bourgogne, en Bordeaux. Vous viviez bien là-bas, non? Et puis moi, j'aime bien votre pinard. Voilà, il y a des centrales nucléaires à côté de chez vous, pensez-y. Les fermiers qui vivent dans une région à côté d'une centrale nucléaire qui explose, ils pendent dans leur étable. Au Japon.
Aucune raison de s'inquiéter.
Spécialiste du retraitement des déchets nucléaires, la France risque de devenir le dépotoir de l'Europe.
Tout va bien.
La centrale de Tchernobyl est la plus sûre en toute Ukraine.
Aucune raison de s'inquiéter.
Tout va bien.
Qui s'est dit qu'a dit que le nucléaire c'est propre? C'est même plus propre que super propre. C'est lui qui lutte contre l'effet de serre pour sauver la Terre. Si t'avais dit la vérité, tu nous parlerais des déchets. Y'en a plein, c'est déjà complet pour l'éternité.
Amen.
T'as pas tout dit à ta doudou. T'as des doutes, tu dis pas tout qui c'est qui l'a dans le dos. Qui s'est dit qu'a dit que le nucléaire c'est rentable? Y'a même plus besoin de dessous de table. On gagne même plein d'argent en vendant du courant. Si t'avais été un peu plus honnête, tu nous annoncerais toutes tes dettes que l'État français il a gommé sans parler démantelé.
Ça, ça coûte.
Qui s'est dit qu'a dit c'est sans danger? On peut même en manger. S'il y en a qui veulent fumer, ils peuvent carrément y aller. Si t'avais été un peu moins menteur, t'aurais pu nous faire peur avec tous ces accidents que payeront les enfants.
Nucléaire, on n'en veut plus. Nucléaire, on n'en peut plus. Nucléaire, tu nous prends, passons au soleil. Nucléaire, on n'en veut plus. Nucléaire, on n'en peut plus. Nucléaire, tu nous prends, passons au soleil.
Tout de suite, tout de suite, tout de suite.